Ça ne dérangera pas. Ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait comme la...
Radio Pleine Lune, Radio Pleine Lune dans vos oreilles et la pleine lune dans le ciel. Alors, aujourd'hui, comme tous les mercredis, Ondes Femmes sur 93.8 MHz. Alors, tout de suite, les informels, les nouvelles des informels, qui sera suivi par le Memento, le programme des rendez-vous, des sorties faites par Marjolaine. Et à 9h, une retransmission de débat qui a eu lieu la semaine dernière ici à Genève, sur l'évaluation du travail. L'évaluation du travail est son instrument pour l'égalité des salaires. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz. Je vous donne notre numéro de téléphone. Si vous voulez nous annoncer un concert, une révolution, pourquoi pas, un débat, téléphonez-nous directement dans le studio au 50 40 51 41 023 depuis Genève, 0033 depuis les autres cantons de la Suisse romande. Radio Pleine Lune, nos nouvelles dans un instant.
Moi je.
Olefnuk, Sensnit, le crône, Olefnuk.
Moi aussi, ils m'ont vendu pendant des siècles, moi aussi.
Olefnuk, lire sa machine, dit Lusinson, Olefnuk.
Moi aussi, j'ai été machine dans leurs usines, moi aussi.
Nani, Moudi, Sarnuk, Hakmoudar, Loire, Fesmadavror.
Ils m'ont dit, donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure quand ça me chantera.
Nani,
c'est atroce.
Les informels de Radio Pleine Lune, nos nouvelles. À Leningrad, hier, un nouvel accident dans une centrale nucléaire. Un accident dans la centrale de Sosnovy Bor, du type de celle de Tchernobyl, près de Saint-Pétersbourg. J'arrive pas à le dire, c'est Leningrad pour moi. A provoqué hier une fuite de gaz radioactif. Si aucune contamination n'a été détectée hors de la centrale, cette panne repose le problème de la sécurité dans les installations nucléaires de l'ex-URSS. Mardi matin, donc, le réacteur numéro 3 de la centrale nucléaire Leningradskaya de Sosnovy Bor, à 80 km à l'ouest de Leningrad, est coupé automatiquement. L'accident est classé au niveau 3 sur l'échelle de l'Agence internationale à l'énergie atomique, qui en compte 7. Une émission de gaz radioactif est signalée, mais selon le directeur de l'Institut à la sécurité de l'énergie atomique, je cite, « aucune contamination radioactive n'est enregistrée en dehors du périmètre de la centrale ». Tandis que le ministre russe à l'énergie atomique civile envoie une commission d'enquête sur les lieux, la population de Leningrad demeure dans l'ignorance de l'accident. Seuls les habitants recevant des informations en provenance de l'Occident sont au courant avant que les médias locaux ne diffusent un communiqué officiel déniant toute gravité à cette panne. La centrale de Sosnovy Bor est équipée de 4 réacteurs de 1000 MW chacun. Tous appartiennent à la filière RBMK, comme celui qui a explosé dans la nuit du 26 avril 1986 à Tchernobyl. Dans ce type de centrale, le combustible nucléaire est composé de barres d'uranium enrichi placées dans des tubes de force dans lesquels circule de l'eau bouillante. Cette eau évacue la chaleur intense que créent les réactions nucléaires au sein du combustible et produit la vapeur nécessaire pour entraîner les turbines. Une importante quantité de gaz radioactif, essentiellement de l'iode, se serait donc échappée du cœur du réacteur. L'Agence pour le contrôle des installations atomiques, comme toutes les institutions gouvernementales russes, vit à l'heure des restrictions budgétaires et des suppressions d'emplois. C'est dire combien la sécurité des quelques 1000 réacteurs nucléaires fonctionnant à travers l'ex-URSS est aujourd'hui sujette à caution. La population n'accorde d'ailleurs qu'une confiance très relative aux autorités et ces dernières semaines à Moscou, des rumeurs persistantes faisaient état d'accidents survenus dans des centrales proches de la capitale est tenu secret par les pouvoirs publics. Il est connu depuis longtemps qu'au moins 10 centrales du même type que celle de Sosnovy Bor fonctionnant en Europe de l'Est devraient être immédiatement fermées, déclarait hier le représentant de l'organisation écologiste Greenpeace à Moscou. En ajoutant, nous devons malheureusement constater que la principale préoccupation des autorités en cas d'accident est d'en minimiser la gravité pour éviter de déclencher la panique. Dans le cas de l'incident de Sosnovy Bor, près de 8 heures se sont écoulées entre le déclenchement du système de sécurité et la réception par l'agence à Vienne d'un fax du ministère russe à l'énergie atomique informant l'agence internationale. Au Pérou, le sentier lumineux tue une militante d'une organisation de femmes dans la banlieue de Lima. Le Sentier Lumineux a assassiné Maria Elena Moyano, membre active du comité de femmes Un Vaso de Leche, un verre de lait. Et elle était également maire adjointe du quartier autogéré Villa El Salvador parce qu'elle avait organisé avec succès un mouvement de résistance contre le terrorisme du Sentier Lumineux. L'organisation de femmes Un verre de lait a mis sur place tout un réseau de groupes d'entraide de femmes dans les quartiers populaires de Lima et constitue ainsi une alternative à l'option du sentier lumineux axé sur la lutte armée. Au Japon, pas de libéralisation de la pilule par crainte du sida. Le ministère de la Santé japonais a décidé de surseoir à l'introduction de la pilule contraceptive afin de prévenir la diffusion du sida. Le Japon en effet présente deux particularités. C'est l'un des rares pays développés où la pilule contraceptive ne soit pas autorisée. Pour plusieurs raisons, crainte des effets secondaires et surtout pression d'une partie du corps médical dont certains praticiens retirent de solides profits des interruptions de grossesse, pratique légale depuis 1948. L'autorisation sous certaines conditions de l'utilisation de la pilule semble de plus avoir donné lieu à un trafic lucratif contrôlé par la pègre, autre lobby hostile à la libéralisation de l'usage de la pilule. Deuxième particularité, le Japon est parmi les nations industrialisées le moins touché par l'épidémie du sida. Bien que le nombre de malades reste faible, 405 en 1991, il n'en est pas moins en augmentation constante. On comptait la même année près de 2500 séropositif, infiniment plus selon les médecins. Phénomène nouveau depuis l'année dernière, l'accroissement des contaminations par contact hétérosexuel qui a dépassé le nombre de celles consécutives à des relations homosexuelles ou à des transfusions. Une récente enquête du ministère de la Santé tend à montrer que les Japonais et les Japonaises considèrent encore le sida comme une maladie étrangère et n'utilisent pas régulièrement des préservatifs. L'industrie des produits prophylactiques au Japon est néanmoins florissante. Encore un groupe de pression hostile à la pilule. Toujours sur le front du sida, aux États-Unis, plusieurs diocèses de l'Église catholique ont décidé d'imposer à leurs séminaristes un test de dépistage du sida. Le porte-parole de l'archevêché de Boston, à Massachusetts, où de tels tests sont déjà pratiqués depuis 3 ans, a déclaré « La fonction du prêtre est rigoureuse et c'est un engagement à vie. C'est tout simplement une question de santé et de bon sens. » Mais pour d'autres responsables, la décision de faire subir ce test serait liée au développement de l'homosexualité qui reste, selon lui, une question taboue au sein de l'Église catholique. La conférence épiscopale américaine a donc décidé de laisser à chaque diocèse le libre choix sur la question du dépistage du sida. En France, toujours donc question sur la question du sida, le Comité national d'éthique s'est prononcé contre le dépistage obligatoire du sida dans les examens prénataux, prénuptiaux et au moment de l'incorporation. Une position qui va à l'encontre de l'attitude des médecins qui, dans un sondage publié, sont très majoritairement pour le dépistage obligatoire. Un rapport accablant d'Amnesty met New Delhi au pilori. Dans un rapport accablant ce mercredi sur l'Inde, Amnesty International estime que les lois d'exception qui accordent aux forces armées l'immunité des poursuites judiciaires dans les régions où sévit l'insurrection armée sont souvent considérées comme, je cite, une autorisation de torture et de tuer. Selon l'Organisation de défense des droits de l'homme, la police indienne torture chaque jour des suspects dans tout le pays. Je cite, « La torture et les morts en détention persistent parce que les policiers savent qu'ils ne risquent pratiquement pas d'avoir à rendre compte de leurs actes devant la justice, même s'ils tuent les victimes et que la vérité est mise au jour. » Les viols en détention sont monnaie courante. Amnesty précise que la plupart des victimes, parmi lesquelles figurent des femmes enceintes et des enfants de 6 ans, appartiennent aux catégories les plus défavorisées de la population, les intouchables, les ouvriers agricoles sans terre et les travailleurs migrants. La section suisse d'Amnesty International va par ailleurs adresser une pétition au Conseil fédéral d'ici le mois de juin pour qu'il retire l'Inde de la liste des pays sûrs. L'Amérique noire en chiffres. Le rapport annuel publié par la National Urban League, une des plus anciennes organisations de défense des droits civiques, présente un portrait de l'Amérique noire dont les problèmes n'ont guère été abordés jusqu'ici au cours de la campagne électorale. L'Amérique noire est toujours malade d'une irréductible pauvreté. Quelque 50% des enfants noirs au-dessous de l'âge de 6 ans vivent dans la pauvreté, dit le rapport. La National Urban League estime que plus de 12% de la population active noire est au chômage, pour une moyenne nationale d'un peu plus de 7%. Cette estimation ne tient pas compte des Africains-Américains qui ne prennent plus la peine de se faire inscrire dans les agences pour l'emploi. Et selon le rapport, pour avoir une idée du chômage noir, il faut ajouter 1 200 000 personnes de plus. Disparité dans les revenus. Une famille noire moyenne dispose de 58% du revenu d'une famille blanche moyenne. Une des malédictions propres à la communauté noire est précisément la désintégration de la famille. Si le nombre de grossesses chez les adolescentes est en hausse constante aux États-Unis, le phénomène est encore plus important dans la communauté noire. En 1988, 26% des enfants américains étaient nés d'une mère célibataire. Le chiffre était de 64% chez les noirs. En France, avec le décret supprimant les quotas de femmes, la police se féminise malgré elle. Contrainte et forcée, la police se plie finalement à la volonté de la Cour européenne de justice de la Haye, qui par un arrêt en 88 avait condamné la France en lui imposant de supprimer les quotas d'emploi des femmes dans les corps actifs. Des nouveaux décrets abolissant les quotas marque la fin de décennies de discrimination. Avec eux disparaissent les quotas qui limitaient l'accès des femmes aux postes ouverts par les concours de recrutement de la police nationale. Celle-ci ne pouvait prétendre qu'à 25% des postes de commissaire, 20% des postes d'inspecteur et 10% des postes de gardien de la paix. Le ministère de l'Intérieur s'est hâté de prendre les devants en imposant dès mars 1990 une sorte de sélection par la toise. La taille minimale des femmes se présentant au concours de la police nationale avait été portée à l'époque d'1,63 m à 1,66 m. En haussant donc de 3 cm la toise réglementaire, on devait, selon les statistiques, fermer les portes de la police à 70% des femmes. Les arrière-pensées sélectives du ministère de l'Intérieur était si transparente que la secrétaire d'État aux droits de la femme de l'époque, Madame Michèle André, avait protesté contre cet acte parfait de misogynie. À une époque où les affiches de recrutement vantaient encore la police en métier d'homme, le nombre des policières augmenta de 800% entre 1981 et 1984. Même si elles ne représentent encore qu'une faible proportion des effectifs dans les services actifs, 6%, une telle progression inquiète leurs collègues masculins. Ceux-ci avancent deux types d'arguments pour critiquer une féminisation jugée excessive, les aptitudes nécessaires à ce métier de rue et la tendance des femmes à occuper des postes de commandement. Plus d'un policier regarde aujourd'hui avec un brin d'effroi ce qui se passe en Allemagne. Les femmes y sont majoritaires dans la police en tenue de certains Länder et peuvent exercer tous les métiers policiers. Or, les décrets récemment publiés prévoient que les policières françaises pourront à l'avenir participer à toutes les missions, y compris celles relevant du maintien de l'ordre, sous la seule réserve des exceptions liées à la maternité. Toujours en France, des chiffres sur l'infécondité. Une étude vient d'être publiée en France dont les résultats donnent pour la première fois avec précision des données sur ce que peut être en France la réalité de l'infécondité. Selon les auteurs de ce rapport, ces résultats, je cite, « confirment le fait que l'infécondité est essentiellement une affaire de couple. Dans 39% des cas, l'homme et la femme présentent chacun des troubles de leur fonction de reproduction. La responsabilité seule de la femme apparaît dans un tiers des cas et celle des hommes dans un cinquième des cas. » Les chercheurs estiment que près de 60 000 femmes demandent chaque année en France une consultation pour un problème d'infécondité, soit au total un taux peu différent de celui établi chez les femmes nord-américaines ou britanniques. L'infécondité est un important problème de santé publique, concluent les auteurs du rapport. Je continue à citer, des modalités de prise en charge correctes ont été mises sur pied, un développement de procréation médicalement assistée depuis une quinzaine d'années, plaçant notre pays au premier rang des pays industrialisés. L'ampleur du problème fait cependant apparaître l'importance de la prévention qui devrait permettre d'éviter un grand nombre de cas d'infécondité. Fin de citation. Il s'agit, en d'autres termes, de savoir si la lutte préventive contre les maladies sexuellement transmissibles, en général, et contre le sida en particulier, permettra, via l'usage du préservatif, de rejoindre celle qui est menée contre l'infécondité. Du côté du Vatican, licenciée pour cause de mariage, une employée de l'Institut pour les œuvres de religion, la Banque de Saint-Siège, a été licenciée pour cause de mariage. Stefania Graziosi a travaillé pendant 10 ans à la banque. Tout comme ses collègues, elle avait signé un contrat spécial l'engageant à démissionner en cas de mariage. Ayant annoncé à la direction de sa banque son intention de se marier, elle a été mise à la porte. Stefania Graziosi a porté plainte contre la banque auprès du bureau Vatican pour les questions de travail. Il s'agit d'une clause d'un contrat spécial qui a été acceptée librement, soulignent cependant les responsables de la banque. Et il continue, les employés de la banque sont en revanche des privilégiés au point de vue économique. Elles reçoivent des salaires bien plus importants que ceux des employés des banques italiennes. En Grande-Bretagne, les étudiantes d'Oxford refusent la mixité. Les bannières claquent au vent sur les murs de Somerville College à Oxford. Non à la mixité, nous voulons rester un collège de filles. Depuis 15 jours, les quelques 400 étudiantes d'un des deux derniers collèges exclusivement féminins d'Oxford se rebellent contre la direction qui a décidé d'admettre des garçons en 1993, donc l'année prochaine. Somerville College, fondé en 1879, pour promouvoir l'éducation des femmes, et le collège où ont étudié Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Iris Murdoch et Dorothy Hodgkins, prix Nobel 1964 de chimie. À Somerville, un référendum parmi les étudiantes a été organisé et 84% des étudiantes se sont prononcées contre le changement et envisagent maintenant d'en venir aux tribunaux pour rupture de contrat. En Suisse, l'immunité parlementaire ne sera pas levée pour la conseillère nationale Francine Jeanpêtre. La conseillère nationale Francine Jeanpêtre du Parti socialiste n'aura pas à répondre devant la justice de violation du secret de fonction pour avoir publié des articles en rapport avec l'affaire des fiches. Dans un premier temps, en octobre 1991, la Chambre du peuple avait refusé de la mettre au bénéfice de l'immunité parlementaire. Plus personne au sein du Conseil national n'a contesté actuellement le droit pour Francine Jeanpêtre de bénéficier de l'immunité. La commune de Morges, dans le canton de Vaud, avait porté plainte contre Francine Jeanpêtre, lui reprochant d'avoir publié 2 articles dont les révélations violaient le secret de fonction auquel elle était astreinte en tant qu'ex-membre de la municipalité. Et pour finir en Suisse, une bonne nouvelle pour les femmes, un programme de recherche sur les femmes. Le Conseil fédéral a confié au Fonds national de la recherche scientifique la mise en œuvre d'un programme de recherche intitulé « Les femmes face au droit et à la société, voie vers l'égalité ». Ce programme national est doté de 6 millions de francs pour une période de 5 ans. Selon les responsables, les connaissances que pourrait faire acquérir le programme national devraient trouver rapidement des applications pratiques, notamment l'élaboration de dispositions juridiques permettant de mieux faire respecter l'article 4 de la Constitution. Espérons que nous ne devons pas attendre encore 5 ans jusqu'à ce que cet article 4 de la Constitution soit mis en pratique. C'était les nouvelles de Radio Pleine Lune, Ondes Femmes, 93.8 MHz.
Bye. Voglio uno scandalo, voglio uno scandalo, l'ultimo scandalo, voglio uno scandalo io con te e tutti i figli tuoi.
Don't you know your soul. It's still just human feeling, and you can express it, so it helps with healing. You know the lonely child, lonely dancer, you've always been here yet to come.